Pierre-Yves, nous allons recevoir l'un des membres du collectif d'humoristes qui veulent répondre à la suggestion de Martin Petit de créer un festival du rire de Montréal, une OBNL, organisme à but non lucratif.
Oui, c'est sûr que juste pour rire, le festival de facto mourrait. Parce que, il y aurait une guerre de titans, parce que t'as un festival à Montréal d'humour, t'as une place des festivals, t'as une disponibilité, t'as des fonds publics limités, on va pas en faire deux. Donc, est-ce que tu fais celui qui a l'approbation des humoristes ou tu fais l'ancien qui a plus d'humoristes qui veulent être dedans? Alors, si c'est ça qui se passe, si on a une collégialité très forte chez les humoristes, on vient de facto de tuer le festival Juste pour rire pour le remplacer par un nouveau festival. Pour le spectateur, c'est bien parce qu'on aura enfin un produit qui serait pas aseptisé, pas contrôlé par un diffuseur télévisuel. On aurait un festival qui montrerait des jeunes de la relève, etc. Il n'y aurait pas de limite à ce qu'on peut faire, dans le fond, à part des limites financières. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact. Si tu es un acheteur du groupe Juste pour rire, aujourd'hui, tu te dis « Oups, attends une minute, là. Le festival me permettait de passer des dépenses. » Le festival me permettait d'avoir une publicité financée par les fonds publics. Le festival permettait de donner une valeur à la marque que j'ai. Est-ce que ça vaut autant? La réponse est sûre que non. Combien ça vaut de moins? On ne sait pas. Mais chose certaine, ça change le goût de certains groupes d'embarquer. Est-ce qu'un groupe comme les groupes de festival vont être intéressants à embarquer quand le festival n'existe plus? Est-ce que la compagnie de production, les gags et le reste est encore aussi intéressant qu'avant? Peut-être. Ça demeure une compagnie de production qui se tient. Mais chose certaine, le party est fini au niveau du train de vie qu'on se payait. Parce qu'il faut pas oublier que si Juste pour rire vaut des dizaines de millions de dollars maintenant, Paul, c'est parce qu'on a laissé une structure se faire financer grassement pendant des années, sans trop poser de questions.
Bon, alors je t'en pose une question. Ben oui, ben voilà, je te pose cette question-là parce que il y avait aussi des retombées importantes pour la ville de Montréal dues au caractère international, au rayonnement du festival Juste pour rire.
Peut-être change de nom.
Oui, mais peut-être. Le festival du rire.
Change de nom. Le festival du rire. Est-ce que l'événement a encore lieu? Oui. Est-ce qu'on a encore cette attractivité? Oui. Tout ce qui change dans le branding, c'est le bonhomme vert et le nom. Mais s'il y a des gens qui reprennent la relève et qui disent, écoute, on a reparti le festival, ça s'appelle plus Juste pour rire, mais c'est encore la même chose. Est-ce que vraiment ça empêche des vedettes internationales de venir au même moment?
Oui, mais qui veulent produire?
Pas. Ah, mais le produit, ils vont le produire à l'interne, Paul. Hein? Je pense pas qu'il va y avoir de compagnie de production intégrée. Elle va être intégrée à même l'OBNL. Donc, si tout se tient à leur message, d'après ce qu'on peut voir, le message qu'ils ont dit, c'est qu'ils allaient engager des gens pour produire. Donc, ils vont engager des gens pour travailler, donc pour l'OBNL, au lieu d'engager une compagnie de production qui va se faire payer une marge de profit là-dessus. Chose certaine, c'est sûr que les contacts de Gilbert Rozon étaient importants, mais Gilbert Rozon n'est plus là de toute façon. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec Just for Laugh, hein, le penchant anglophone?
Voilà.
Il y aura des discussions à voir, mais chose certaine, on vient de mettre plomber la valeur du festival. Moi, ceux qui ont acheté des passes pour l'année, là, parce qu'il y a des préventes sur les passes l'année prochaine.
Oui.
Si t'as aucun humoriste québécois,
oui.
Ça va mal.
En tout cas, c'est l'initiative de Martin Petit. Nous aurons
Michel Barrette,
oui. Je veux que tu me parles des fameux Paradise Papers. Parce que les gens là, qui sont pas nécessairement au courant de ce que ça représente voient des noms sortir. Plus que des noms, des compagnies comme Apple. Là, hier, c'était Bono. Lewis Hamilton, qui s'est acheté un jet de 4 millions de livres. Oui. Et tout ça, quand les pratiques financières parlent, finalement.
Oui, il y a plusieurs choses là-dedans. Première des choses, on peut créer des compagnies à l'étranger pour faciliter des transactions internationales. C'est pas nécessairement pour faire de la fraude fiscale ou de l'évitement fiscal. Par contre, quand on est Canadien, qu'on se crée des structures pour faire de l'évitement fiscal et qu'il y a des noms qui sortent, ça veut pas dire que les gens ont utilisé les stratagèmes, mais ils ont quand même mis en place, ils ont quand même eu l'intention de optimiser leur fiscalité dans la limite de ce que la loi permet, le texte de la loi. Et l'exemple que je veux donner, c'est Apple. Un comptable qui regarde les états financiers d'Apple, pouf de rire un petit peu, je t'explique pourquoi. T'as 375 milliards d'actifs. Là-dessus, t'as près de 250 milliards de placements en bourse. Là, des actions, des placements qui sont échangeables rapidement, ce qu'on appelle des marketable securities. Pourquoi, Paul? Simplement parce que tu voulais pas rapatrier ces placements-là aux États-Unis ou ailleurs, parce que tu voulais pas payer d'impôts. Donc, qu'est-ce que tu as fait? T'es allé t'endetter de 241 milliards dans la même compagnie. Là, tu peux dire, non, on utilisait l'effet de levier, on se finançait, on s'endettait pour faire plus de rendement avec nos placements. Mais Apple, c'est une compagnie de téléphone, une compagnie d'informatique, une compagnie de logiciels. Ce n'est pas une compagnie de placement. Si on avait un bilan qui ressemble à ça, c'est parce qu'on ne voulait pas rapatrier l'argent. Donc, on a un peu d'hypocrisie fiscale. D'ailleurs, Bono est un bon cas. Bono qui sort de la Vertu, il venait au Centre Bell puis il nous disait « Donnez votre argent », tout ça. Lui, en 2006, il a transféré ses actifs de l'Irlande aux Pays-Bas parce que la fiscalité de l'Irlande était devenue désavantageuse par rapport à avant pour les artistes. Donc,
voilà.
Il s'est transféré. Donc, lui-même en profitait.
Et en terminant, Twitter va passer à 280 caractères.
Oui, on a fait une étude et on s'est rendu compte qu'à 140 caractères, 9% des messages étaient ne passaient pas, étaient bloqués. Donc, on a dit, si on l'étend à 280 caractères et qu'on fait un test, il y a juste 1% des messages qui seraient bloqués. Donc, on va diminuer la frustration des utilisateurs. Et pourquoi on fait ça? Parce que le nombre d'utilisateurs aux États-Unis plafonne à 69 millions d'utilisateurs quotidiens. Puis on est à 1,3 milliard chez Facebook d'utilisateurs quotidiens. Tu vois qu'on n'est pas dans la même ligue du tout. Donc, on veut tenter par tous les moyens de sauver Twitter parce qu'on fait quand même des pertes à chaque trimestre. Et on réussit pas à rendre le titre intéressant.
Ne manque pas notre entrevue avec Michel Barrette à 18h05.
J'écoute ça à l'instant, Paul.
Au revoir, à demain. Bye.